Bonjour. Je vous fais une prédication comme ça en pleine semaine, parce que quelques personnes me demandent au sujet de la série que j'avais commencée au sujet de Jéthro et des origines d'Israël qui aime Yahvé. Vous savez que pendant la période de l'esclavage en Égypte, ils ont oublié Dieu. Même Moïse ne connaissait pas Dieu. Quand il l'a rencontré, il lui a demandé son nom. Voilà. Donc, et puis je me suis aperçu que ça ne passionnait pas grand monde. Donc, je vous fais une prédication comme ça en pleine semaine pour ceux que ça intéresse. Je vous ai parlé d'un site archéologique qui a été découvert, un sanctuaire. Un sanctuaire en forme de, qui était une tente. On a retrouvé des morceaux de tissu, on a retrouvé des barres, on a retrouvé même un serpent d'airain, on a retrouvé plein de choses. Et tout ça, ça se trouve maintenant exposé au musée archéologique de Tel Aviv. Et pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est des choses qui existaient avant que Moïse passe par là. Comme je vous le disais, le site de Timna fait réellement penser au premier sanctuaire des Juifs, la tente de rendez-vous. Vous rappelez, je vous l'avais enseigné, je vous l'avais déjà dit, je vous fais juste un petit court rappel pour que ça vous revienne en mémoire. Souvenez-vous que le site de Timna est plus ancien que la tente du rendez-vous de Moïse. Ce qu'on a trouvé à Timna recèle en fait les germes de la nouvelle redécouverte de Yahvé. Dans Deutéronome 33, nous lisons le cantique de Moïse quand il dit le nom de l'Éternel, il dit Yahvé Elohim. On trouve ça dans la version Shuraki, parce que c'est une version juive, c'est un petit peu plus correct, je dirais. Et donc, je vais vous lire Deutéronome 33, verset 2-3. Voilà, donc le cantique de Moïse. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, bénit les Israélites avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendi des monts de Paran. Il est sorti du milieu des saintes troupes et il leur a, de sa main droite, envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Alors, dans la version Shuraki, c'est écrit Yahvé, Elohim Yahvé. Et non pas l'Éternel, ça c'est le mot voilà français dans nos versions courantes, on dit l'Éternel, voilà. Mais quand il dit il resplendit, ça signifie il arrive, il brille, il vient de du Sinaï, c'était la montagne de Dieu. Il dit que l'Éternel a brillé pour eux, pour le peuple d'Israël, de Zéhir. Adonai Yahvé est venu du Sinaï, version Shuraki. Et le mont Paran se nomme aujourd'hui Badiet et Ti, T-I, tréma H en français. Ce qui signifie le désert des errances. En fait, c'est un triangle, si vous allez regarder sur une carte. Vous avez le Sinaï au sud, et puis vous avez ensuite toutes ces choses, tous ces noms. Zéhir, ou le mont Paran, tout ça c'est la même chose. C'est une immense région appelée la péninsule du Sinaï. Vous allez voir sur Google, vous demandez la carte, et puis ils vont vous montrer tout ça. On a vraiment une technologie extraordinaire. Maintenant, on peut voir tout ça en deux secondes. C'est dans ce désert, donc, que les enfants d'Israël partirent du mont Sinaï, donc le sud, et la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Et c'est ce que nous dit Nombre 10, 12. Alors, est-ce que je l'ai noté? Nombre 10, 12. Je vais voir ça. Non, je ne l'ai pas noté. Oh là 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 là. J'ai travaillé sur ce que je suis en train de vous dire là. J'ai travaillé 7 heures pour vous sortir tout ça. Et ben, y a des fois j'oublie de mettre des notes dans ma Bible. Nombre 10, 12. Voilà ce qui est dit. Les Israélites partirent alors du désert du Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. C'est le premier départ qu'ils effectuèrent conformément à l'ordre que Adonai Yahvé avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Et c'est du désert de Paran que Moïse envoya les espions sur la terre promise. Et ça, on trouve aussi dans le livre des Nombres, au chapitre 13. Voilà ce qui est écrit, au chapitre 13, verset 1-3. Il est dit, « L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan, que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. » Ils seront choisis parmi leurs princes, et Moïse envoya ses hommes du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel, et ils étaient tous chefs des Israélites. Et puis alors voici les noms, alors il donne tous les noms, je ne vais pas vous lire tous les noms, mais il y a tous les noms. Et c'est du désert donc de Paran que Moïse a envoyé ses espions, qui sont ensuite revenus, et vous connaissez l'histoire. Timna se situe là, à l'extrême sud de l'Israël actuel. En fait, Timna, le site de Timna, ce qu'on a retrouvé, se trouve à 320 km de Jérusalem, dans une zone complètement désertique. J'y suis allé, j'ai vu. Les mines de Timna sont ce qu'on appelle aujourd'hui les mines du roi Salomon. Le roi Salomon, il les a exploités 1000 ans avant notre ère, c'est-à-dire bien après Timna. Alors, on y pratiquait, à l'époque de Timna, l'industrie du cuivre. Quand vous allez là-bas, vous trouvez du cuivre par terre. L'activité technique des fondeurs s'accompagnait, parce qu'ils fabriquaient des armes, ils fabriquaient toutes sortes d'objets, elle s'accompagnait d'une activité spirituelle bien avant que les mines deviennent les mines du roi Salomon. On trouve des restes. Je vous ai mis une photo du site de Timna sur Révélation Bible et sur le site révélationbible.fr. Maintenant, souvenez-vous que Moïse rencontra Jéthro qui campait à ce que la Bible appelle la montagne de Dieu. Ah, la montagne de Dieu, tout ça dans Juges 5, 4. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel, quand tu es sorti de Zéhir, quand tu t'es avancé, venant des champs d'Édom, la terre a tremblé, le ciel a ruisselé, les nuages ont déversé leur eau, les montagnes se sont liquéfiées devant l'Éternel, le Sinaï a tremblé devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était le cantique de Déborah, ce que je viens de vous lire là. Et c'était la montagne de Dieu, ça se trouvait là où était Jéthro. L'Éternel est sorti de Zéhir, là où vivait Jéthro. Jéthro connaissait Yahvé. Il en était même le grand prêtre. Moïse rencontra Dieu sur la montagne, mais lui, il ne savait pas qui était Dieu. Jéthro, oui, puisqu'il était le grand prêtre de Madian, ce coin-là. Dans Habakkouk 3, 13, voilà encore un texte que j'ai pas noté, nous lisons que Yahvé provient de Théman, ce qui signifie le sud, ou encore de Paran, qui débouche entre le site minier de Phénan et de Timna. Tout ça dans Habakkouk 3.13. Donc, quand Moïse rencontre Jéthro, il rencontre le lieu où se trouvait Yahvé, la montagne de Dieu. Ce haut lieu où Dieu se trouve était un domaine minier. Il y avait des mines. Mais il n'y a pas que la Bible qui dit ça. Il y a une inscription gravée sur une colonne du temple du dieu Amon, ou Amon, comme vous voulez, à Soleb, qui parle des saches, alors je vous l'espèle, hein, c'est, en français c'est S-H-A-S-U, trait d'union, Yahu, Y-A-H-U, ce qui signifie population nomade. Et il y a cette inscription sur cette colonne, et Sahu, Chahu, en langue hébraïque, canonique, s'écrit S apostrophe R, hein, une fois traduit en français, évidemment. Elle se prononce Saru, ce qui signifie Seigneur. Vous voyez, cette expression Sahu, Yahu, dénote l'importance de Yahvé pour cette population de nomades. Ils avaient un seigneur. Alors bon, le terme Saül ne se trouve pas dans la Bible, mais dans Genèse 36, 8, 29, il nous est donné la généalogie d'une multitude de clans, tous affiliés à Ésaü et Zaïr. Alors, je ne vais pas vous lire 36, 8 à 29, mais vous le ferez chez vous. Genèse 36, 8 à 29. Et tout ça, on y trouve dans cette généalogie, une multitude de clans, tous affiliés à Ésaü et Zéhir, se trouve Timna. Vous pouvez le lire si je peux peut-être juste vous lire le passage où on trouve Timna. Alors 36 8 à 29 c'est un peu long. Jusqu'à ce que je retrouve le passage où... enfin, vous chercherez, hein. c'est là-dedans, c'est immense, ça ne doit pas être... Ah non, mais attendez là, je vous dis Genèse et puis je suis en train de regarder l'Exode. Alors, Genèse 36... Si vous voyez l'état de mon bureau, il y a des papiers, il y a des bouquins, il y a un fourbi, tout est mélangé. Il faudra vraiment que je fasse de l'ordre pour avoir me retrouver. Hein. Je me retrouve dans mon désordre, mais disons que ça serait quand même bien que je fasse un peu d'ordre. 36, 8 à 29. Voilà ce qui est dit. Donc, au dernier verset, voilà quels sont les descendants d'Ésaü, et voici là quels sont leurs chefs, voilà pour Édom. Et on trouve les fils d'Éliphaz furent Théman, Omaz, Tsepho, Gaétan et Zénac. Timna était la concubine d'Éliphaz, le fils d'Ésaü. Elle donna à Éliphaz Amalek. Voilà quels sont les descendants d'Ada, la femme d'Ésaü. C'était la région où se trouvait toute l'équipe d'Ésaü, Zéhir. Et c'est très rare que dans la Bible on donne le nom d'une femme. Si on donne le nom d'une femme, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, on peut la trouver si on la cherche. Si on cherche pas, si on dit tiens, Timna, pauvre, on s'en fiche. Non, si on cherche, on trouve. Tout ça, ça se trouve sur le territoire d'Édom. Alors, eh bien, le fameux Saül de Zéhir était des adorateurs de Yahvé avant Israël. ce sont eux que mentionne l'inscription sur la colonne égyptienne du temple d'Adon. Les autres juifs se trouvaient en Égypte, en esclavage. Et cette colonne, elle date de Amenophis III et de Ramsès II, soit un peu avant la naissance du peuple d'Israël qui était donc, comme je vous dis, captif et qui avait oublié Dieu jusqu'à à son nom. Et... Moïse dit, quel est ton nom? Qu'est-ce que je veux dire? Qui es-tu? Zéhir, il a eu 7 fils. On trouve ça dans Genèse 36, 20, 21. Et une fille, Timna, Genèse 36, 22, je viens de vous le lire, et la Bible, qui ne mentionne que très rarement le nom des femmes, note cette femme. Pourquoi? Parce que Timna s'est installée et on a trouvé cette fameuse tente, sanctuaire, là, sur le site de Timna, qui date de bien avant la tente de Moïse. Et c'était une tente de fondeurs, de gens qui louaient Dieu, qui adoraient Yahvé. Et les Tinaïtes étaient bien affiliés à Zéhir, Zéhir dont le nom s'identifiait avec la montagne de Dieu, et qui s'identifie toujours avec la montagne de Dieu dans la Bible, c'est quand même pas rien. Ça fait réfléchir. Et est-ce que vous avez remarqué que Timna a engendré un fils qui s'appelle Amalek? Et Amalek a hérité de quoi? Des traditions de Zéhir par sa mère, et puis des traditions de son père Eliphaz, fils d'Ésaü, Genèse 36-12. Et cette généalogie reflète donc l'intégration des Amalécites à la confédération édomite, Édom. Alors je vous rappelle que Timna est le nom de l'un des 12 clans qui forment Édom. On l'a lu dans Genèse 36-40. Alors de nos jours, Amalek est un peuple honni dans la Bible. Ça fait déjà longtemps. Il est frappé d'anathème. Et même il y a un ordre de Dieu pour exterminer les Amalécites. On trouve ça dans Deutéronome 25-19. On trouve aussi cela dans Exode 17, 14, 16. Et Saül a organisé une campagne militaire pour anéantir Amalek sur ordre de Dieu. 1 Samuel 15, 2, 3. Ils avaient la peau dure, les Amalécites. Et c'est sans doute ça qui fait que le site de Timna, qui est la mère d'Amalek, n'a jamais été un bon candidat dans l'explication des origines de Israël yahviste. Vous me suivez? Vous comprenez? On va lire Exode, chapitre 17, 1, je vous lis, à 13. « Toute l'assemblée des Israélites partirent du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées et campèrent à Rephidim, là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. » C'est toujours comme ça, le peuple de Dieu cherche des noises aux serviteurs de Dieu. C'est pas nouveau, n'est-ce pas, Riri? Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Quand on cherche querelle aux serviteurs de Dieu, eh bien, ça veut dire qu'on cherche querelle à Dieu. Le peuple était là, pressé, par la soif, murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres, ils vont me lapider. C'est une bande de sauvages. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche, et je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Alors Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba. parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il vraiment au milieu de nous, oui ou non? Et c'est juste après ça que Jéthro a appris que Dieu, ce que Dieu avait fait au travers de Moïse en Égypte. Vous lirez ça, il y a eu une victoire des Amalécites qui sont venus pour combattre les Arrefidim. Moïse dit à Josué, mais choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Et Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse et à Aaron, ils montèrent au sommet de la colline, et lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes et fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Bon, c'est écrit dans le livre, mais on s'en souvient parce que c'est écrit, son nom est écrit. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. Il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura une guerre de l'Éternel contre eux, de génération en génération. Et c'est au chapitre 38 que Jéthro, prêtre de Madian, donc de là où il y avait la montagne de Dieu, il apprend tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël. Vous lirez ça au verset 18, au chapitre 18 de la Genèse, jusqu'au verset 12. Et dans Juges 12-15, on trouve la mention d'un mont Amalek dans le territoire d'Éphraïm. Faut pas oublier que Déborah, elle était d'Éphraïm. Le territoire d'Éphraïm, c'est ce qu'on appelle au temps de Jésus la Samarie. Vous comprenez pourquoi il y avait des petites chicanes entre les Juifs et les Samaritains? Vous voyez pourquoi? Et ce territoire est très loin du Sinaï, là où se trouve le mont Amalek. Ça signifie quoi? Ça signifie que les Amalécites se sont associés à Éphraïm, à l'Éphraïm de la Bible. Mais Éphraïm, c'était qui? Dans la Bible, on lit qu'Éphraïm a dû défricher des régimes boisés pour pouvoir s'y installer. Josué 17, 1, 17. Pourquoi? C'était pas un bel endroit. Hein. Pour bien comprendre le problème que représente Éphraïm, il faut se souvenir que quand Jacob, bon, puis de Jacob, il a retrouvé son fils Joseph en Égypte. Il pensait que son fils Joseph était mort, mais c'était les frères de Joseph. Ils l'avaient vendu aux Égyptiens. Puis Joseph a eu toutes sortes d'histoires. Et finalement, il est devenu le principal, juste en dessous de Pharaon dans le pays. Eh bien, quand Jacob a retrouvé Joseph en Égypte, Joseph avait deux fils, Éphraïm et Manassé. Et Jacob les a adoptés. Jacob, c'est Israël. Hein. C'est pourquoi ils ont eu un héritage lors du partage de la terre promise, dans Josué 14, 1-4, vous le lirez. Mais Dieu considéra, je vais quand même vous le dire parce que c'est une curiosité, Josué... Attendez, qu'est-ce que je vous ai dit? Josué 14, 1-4. Voilà, c'est là. Les fils de Joseph, qui s'appelaient comment ? Éphraïm et Manassé. Les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Éphraïm, et on ne donna pas de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes d'habitation avec leurs environs pour leurs troupeaux et leurs biens. Les Israélites se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et partagèrent le pays. Mais juste avant, verset 1 ou chapitre 14, voici ce que les Israélites reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que le prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus israélites partagèrent entre eux. Le partage eut lieu par tirage au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse, pour les 9 tribus et demi. Donc ils ne comptent pas Éphraïm et Manassé. Non. Encore moins Ésaü et... Jacob avait adopté Éphraïm et Manassé. Et il dit, Dieu considérait Israël comme son fils, et Éphraïm, il le considérait, vous savez comment? Je vais vous le dire, c'est dans Jérémie 31. Je vous le lis. Comprenez pourquoi je prêche pas ça le dimanche, parce qu'il y en a, ça leur passe tellement roux sur la tête que ça les intéresse pas, ça les édifie pas, ils y comprennent rien, ils ont pas envie de savoir. Alors, Jérémie 31, 18, 20. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, j'entends clairement Éphraïm se lamenter, tu m'as corrigé, je me suis laissé corriger, pareil à un jeune taureau qui n'a pas encore été dressé, fais-moi revenir, je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Revenu à de meilleures intentions, je regrette mon attitude, après avoir pris conscience de mon état, je me frappe la cuisse, je suis honteux, rempli d'humiliation, car je dois porter le déshonneur de ma jeunesse. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir, pour que chaque fois que je parle contre lui, mon souvenir reste si fort en moi? Et Dieu dit, c'est Dieu qui dit, c'est que je suis profondément bouleversé quand il est question de lui, je ressens beaucoup de compassion pour lui, déclare l'Éternel. Et je voulais vous montrer que il l'appelle, il dit, Israël, je considère Israël comme mon fils, mais je considère Éphraïm, je suis son père. C'est mon premier-né. Je retrouve plus le passage. Joseph en Égypte, il a pris une femme, la fille de Potiphar, prêtre de On, Genèse 41, une femme égyptienne. C'est ce qui fait qu'il y a toujours eu comme une différence entre les tribus d'Israël et les 2 tribus d'Éphraïm et Manassé. Mais aux yeux de Dieu, l'Éternel était considéré comme son premier-né. C'est quand même incroyable que j'arrive pas. J'aurais dû noter. Pourquoi j'ai pas noté ce. Vous permettez, je fais juste une petite recherche. Et Éphraïm, mon premier né. C'est quand même formidable d'avoir. C'est Exode 4. C'est là-dedans qu'il dit ça. Exode 4. Là, j'ai cherché sur Google. Vous voyez, on trouve des choses sur Google dans la Bible. on trouve la Bible dans, sur Google, vous n'avez pas le droit de ne pas connaître. Il dit, viendra en pleurant, je les conduis au milieu de leurs supplications, je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais, j'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est fantastique. C'est tout simplement fantastique. Il considère Ephraïm comme son premier-né, alors que Israël existait déjà, c'était Jacob son premier-né. Ben non, il dit c'est Ephraïm. Il dit c'est Ephraïm, c'est, je ne l'invente pas, vous l'avez dans la Bible, c'est comme ça. On trouve dans Jérémie 31, 9 aussi. Jérémie 31, 9. Il dit, ils reviennent en pleurant, c'est ce que je viens de vous lire, ils reviennent en pleurant, mais je les conduis au milieu de leurs supplications, je les conduis vers des torrents d'eau par un chemin tout droit, où ils ne trébucheront pas, en effet, je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. Ah, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, c'est écrit, c'est comme ça. Alors, ça vous rappelle pas quelque chose, l'histoire d'Ésaü et Jacob? Ésaü était l'aîné. Et pourtant, c'est Jacob qui est devenu, qui a eu le droit d'aînesse, qui est devenu Israël. Ça vous rappelle pas l'histoire d'Abraham qui déposséda Ismaël, son premier-né, au profit d'Isaac, le fils de la promesse. Et Jacob, qui transfère le droit d'aînesse de Ruben à Joseph, dans Genèse 49, et aussi donc de Manassé, à Ephraïm. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, puis on n'a pas à discuter. C'est certainement ce qui s'est passé avec Israël et l'Église. En effet, Dieu a scellé avec les hommes une nouvelle alliance qui, cette fois, va bien au-delà d'Israël, parce que cette nouvelle alliance, elle est pour le monde entier. Dieu l'avait annoncé à Abraham dans Genèse 22. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Et ça, on peut pas aller contre. Hein. C'était déjà prophétisé des centaines d'années avant que ça arrive. Genèse 22, 15. Voilà ce qu'il dit. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham. Depuis le ciel, il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, Yahvé, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera des villes, les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Toutes les nations de la terre. Hein, ça, les Juifs n'ont pas très bien compris ça. Hein. Quand ils nous voient adorer Jésus-Christ, ils comprennent pas bien encore. Hein. Il faudra que ça leur soit révélé. Ça leur sera révélé un jour. Mais pour le moment, ils sont aveuglés. Et c'est qui les aveugle? Ben c'est Dieu, il a mis un voile sur leurs yeux pour qu'ils voyaient rien du tout. Alors on peut pas leur en vouloir, il faut les évangéliser, mais c'est très rare de voir un juif qui se convertit vraiment, et quand on en voit un qui se convertit, c'est formidable. Moi j'en ai vu dans ma communauté deux qui sont convertis, ben mon Dieu, c'est ce qu'ils m'ont fait comme problème. Hein. Donc voilà, quoi, c'est quand même des gens qui ont un coup raide. C'est de nature. Dieu dit, c'est pas, j'ai pas choisi les meilleurs du monde, hein. Je vous ai pas choisi parce que vous êtes meilleurs que les autres. Dieu plusieurs fois dit, vous avez la tête raide, le cou raide. Il dit même à Moïse, je vais pas marcher au milieu de vous parce que je vais vous détruire. Et puis à un moment donné, Dieu dit, je vais détruire Israël, je vais renouveler ma promesse, mais au travers de toi et de ta descendance. Et Moïse plaide, il dit, non, Seigneur, fais pas ça. Si tu fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens que tu nous as, que t'as conduit ton peuple dans le désert pour le faire périr dans le désert? Et c'est écrit, Dieu se repentit. Il était en colère. Pardon, mais voilà, ils ont des fois des drôles de comportements. Alors on pardonne, c'est vrai, mais il faut quand même reconnaître ce qui est. La promesse faite à Abraham, elle s'accomplit pleinement en Jésus-Christ aujourd'hui. Mais l'histoire d'Israël et d'Éphraïm n'a pas été toute rose, vraiment pas du tout toute rose. Il s'est passé des trucs assez horribles. On trouve ça dans Juges 12, 1 à 6. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephté, pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous avoir appelé à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephté lui répondit, nous avons eu de grands sujets de querelle, mon peuple et moi, avec les Ammonites, et quand je vous ai appelé à l'aide, vous ne m'avez pas délivré d'eux, voyant que vous ne veniez pas à mon secours. J'ai risqué ma vie et j'ai marché contre les Ammonites. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephté rassembla les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les Galaadites battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient « Vous n'êtes que des fuyards, Éphraïm, Galaad Galaad fait partie d'Éphraïm et est passé à Manassé. Galaad, un fourbi, un chenit, ces histoires. Galaad s'empara des guets du Jourdain du côté d'Éphraïm. Quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait, laissez-moi passer, les hommes de Galaad demandaient, si tu es Éphraïmite, es-tu Éphraïmite? Il répondit, non, oui, vous n'allez pas se faire zigouiller. Alors il lui disait, bien, alors dis Chiboulette. Et l'autre disait Ciboulette parce qu'ils n'arrivaient pas à bien prononcer le mot à cause d'un accent qu'ils avaient, eux, comme les Vaudois et les Valaisans, hein Thierry? Sur quoi les hommes de Galaad s'emparèrent de lui et l'égorgèrent près des guets du Jourdain. Il y eut 42 000 hommes éphraïmites qui furent tués à cette occasion-là. Jephté fut juge en Israël pendant 6 ans, et puis Jephté, voilà. Ça n'a pas toujours été rose, et l'histoire de l'Église et puis d'Israël, ça n'a pas toujours été rose non plus. Et regardez encore aujourd'hui, vous avez des gens qui se disent chrétiens, qui sont antisémites, c'est infernal, mais c'est infernal, c'est une histoire qui n'en finira jamais. Si, ça finira un jour, quand Jésus reviendra, et c'est pourquoi l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus pour mettre fin à tout ça, pour que ça se termine, que le mal soit éliminé une fois pour toutes. Je ne sais plus quel roi français avait dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». C'est horrible à dire, mais Dieu connaît les siens, et un jour il va venir et il va mettre de l'ordre là-dedans. Maintenant, ça, c'était une partie du message que je voulais vous donner sur Jéthro et sur Timna, mais j'ai encore d'autres choses à vous dire, mais je ne vous les dirai pas tout de suite, parce qu'il me faut beaucoup de temps pour préparer des telles prédications. Ce n'est plus des prédications, c'est de l'enseignement. Et comme ça n'intéresse pas grand monde, eh bien, je veux pas trop perdre de temps, j'ai des tas de choses à faire, on fait de l'humanitaire en ce moment, on est en train de récolter de l'argent pour partir au Togo, et on a beaucoup de choses à faire, l'histoire de Jéthro, Timna, tout ça, comme ça vous intéresse pas trop, ben je veux pas y passer trop de temps non plus. Mais je reviendrai dans quelques semaines pour vous parler encore un peu plus de tout ça, pourquoi est-ce que Dieu habitait ce mont, qui est un site minier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen, amen, et à bientôt. Au revoir.